Merci de me recevoir dans votre temple, à l'endroit sacré. Et je vais vous montrer les convergences qui existent actuellement entre la science moderne, en particulier la physique, et la spiritualité. Alors avant, je vais me présenter. Mon parcours a été d'abord celui d'un physicien théoricien. J'ai passé un doctorat sur la théorie quantique des champs. J'ai fait ma thèse avec Pierre-Gilles de Gennes. Et ce maître de l'analogie a aiguisé mon esprit dans le sens de religarer les disciplines les unes aux autres. Et ça a été tout son génie. Il a mis de l'ordre dans un désordre disciplinaire, désordre qui venait du cloisonnement des disciplines. Mais la physique a montré vite ses limites pour ce que je recherchais. Il y avait un côté rigoureux, mais beaucoup trop rigoureux. Trop de rigueur tue la rigueur, comme trop d'impôt tue l'impôt. Et donc j'ai été vers la biologie, une science beaucoup plus complexe, moins mathématisable. Et elle aussi a montré ses limites, alors je suis devenu anthropologue. Et ça m'a permis de comprendre que la science est faite par les hommes, et les hommes ont leurs idéologies, leur subjectivité, leur objectivité, et ça m'a permis de regarder le monde scientifique avec un autre regard. Je me suis rendu compte que le principe d'objectivité était un mythe. On a toujours, qu'on soit théoricien ou expérimentateur, une vision du monde derrière un petit coin de son cerveau. Alors, puisqu'on a parlé de lumière, on a parlé également d'un certain nombre d'auteurs, Edgar Morin, la complexité, il est bon de revenir sur la lumière. La lumière a fasciné toutes les premières civilisations. Je vais en prendre une, la civilisation égyptienne. On a tous en tête Akhenaton avec le soleil et les rayons qui émanent du soleil. Mais quand on regarde certaines représentations, curieusement, on a une sorte de lumière granulaire. Et la lumière granulaire, d'ailleurs, ou le regard qu'on peut avoir sur la lumière, un autre regard que celui du regard profane que nous avons tous, à savoir une onde, eh bien, revenons un peu à la croix de vue, la croix de Hanck. Pour les Égyptiens, c'était un miroir de cuivre, le cuivre étant un métal céleste, qui permettait de recueillir la lumière des origines. Mais c'était aussi le lacet vu du dessus lorsqu'on porte son regard sur la sandalette. Et curieusement, il y a quelques années, on avait développé une théorie qui s'appelait la théorie du bootstrap, du lacet de chaussure. Et on revient à ces théories avec la théorie des corps, même si elle est remise en cause. Il y a une sorte de tentative de dissoudre la matière tout en la retenant sur un fil ténu qu'on appelle les cordes. En langage mathématique, ça s'appelle des brames. Les cordes peuvent être ouvertes ou fermées. Donc pour les Égyptiens, la croix de vie, c'était la puissance de vie qui était capable de recueillir cette lumière des origines. Et c'est un peu ce que font les astrophysiciens. Ils essayent de recueillir cette lumière des origines. L'origine qui remonte à 380 000 ans avant le Big Bang. Au-delà de ces 380 000 ans, la lumière est piégée dans la matière. Et au-delà de 380 000 ans, elle se libère. Je reviendrai sur ces 380 000 ans, puisque ça va nous permettre d'aborder non pas le cinquième cycle, mais le cinquième élément, qui s'appelle l'éther. Et c'était aussi la force pour les Égyptiens qui permettait de donner du chemin aux pieds, selon la belle expression égyptienne. Alors, on a associé la croix de vie au regard divin, parce que le regard crée. On l'a associé au granit, parce que c'était le symbole de la stabilité au niveau d'un développement personnel. On l'a associé aux fleurs ou aux couronnes de fleurs, aux bouquets de fleurs ou aux couronnes de fleurs, parce que c'est l'expression admirable de la vie, à la chèvre, puisqu'elle se nourrit de trois fois rien, et au blé, puisque c'était la nourriture principale des Égyptiens. Alors on retrouve aussi la croix de vie au niveau des oreilles. Deux croix de vie, c'était deux silencieuses. Les silencieuses, c'était les oreilles. Et un sage égyptien, Taotep, nous dit « Lorsque l'écoute est juste, la parole est juste, celui qui écoute est maître de ce qui est profitable. Écouter profite à celui qui écoute. Écouter et plus que tout, ainsi naît l'amour parfait. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Alors, cette lumière des origines, quelle est déjà sa nature? Et je vais revenir sur des principes de base de la mécanique quantique. Alors, je vais rappeler les fondements, très simplement. Et on va surtout se pencher, si je puis dire, sur cette lumière et sur le lien qui peut s'établir entre cette lumière et le temps. Alors, dès qu'on aborde un discours métaphysique ou qu'on essaye de changer son regard sur le monde, immanquablement, comme nous dit Gaston Bachelard, on est obligé de se repencher sur la nature de l'espace et du temps. Et c'est ce qu'on va faire, et je vais prendre appui sur la lumière et introduire des notions qui vont nous permettre ensuite de reconsidérer l'espace et le temps. Alors pendant de nombreux siècles, les physiciens se sont posé la question de la nature intime de la lumière. Était-elle d'une nature corpusculaire ou d'une nature ondulatoire? Quand on regarde les représentations égyptiennes, les Égyptiens nous disent elle est les deux. Et c'est la conclusion à laquelle la mécanique quantique va aboutir. Alors, une expérience célèbre, qui est encore utilisée de nos jours comme une base pour aiguiser la réflexion théorique, c'est l'expérience dite de Jung. D'ailleurs, Jung a été, en plus d'être un médecin, un physicien et un égyptologue, il maniait 14 langues mortes, et il a failli coiffer notre champignon national dans le déchiffrage des hiéroglyphes. Il a fait une expérience pour essayer de trancher cette problématique. Donc, l'expérience est simple, on a une source de lumière, elle envoie des flux de lumière. En physique, la lumière, on l'appelle particule lumineuse ou photon. C'est ainsi qu'on l'appelle depuis 1926. La lumière va rencontrer un obstacle avec deux fentes, avec un faible écart entre les deux fentes, et derrière, il y a un écran. Et il se dit la chose suivante. Si la lumière, comme le pensait Newton, qui curieusement a démontré que la lumière, lorsqu'elle passait dans un cristal, était décomposé, hein. Vous avez tous vu cette expérience, les sept couleurs de la lumière, alors il faut un dispositif optique pour pouvoir le montrer. Il pensait que la lumière avait une dimension corpusculaire. Donc il se dit, quand les balles lumineuses ou les particules lumineuses vont passer entre les deux trous, elles vont donner des impacts sur l'écran, donc on aura un maximum d'impact aux alentours du trou, des deux trous ou des deux fentes, et rien en dehors de ces deux fentes. Or, ce qu'il voit sur l'écran, à sa grande surprise, c'est une succession, selon une symétrie verticale, de lumière, d'obscurité, de lumière, d'obscurité. On appelle ça en physique des interférences. Lorsque deux rayons lumineux interagissent entre eux, eh bien, on appelle cette interaction interférence. Alors, il se dit, la nature de la lumière ne peut pas être corpusculaire, elle est donc ondulatoire. Mais il ne donne pas l'explication, c'est un Français, Augustin Fresnel, qui la donnera, de la nature intime de la lumière. Alors Fresnel va revenir sur la notion même d'onde, et on va faire une expérience par le ressenti, que tout le monde a fait. Si on dépose délicatement un bouchon à la surface d'une eau calme, et qu'ensuite on lâche un petit caillou, le bouchon va monter, descendre. Vous en déduisez quoi? Que le petit caillou a créé un déplacement d'énergie et non pas un déplacement de matière. Si ça avait été un déplacement de matière, le bouchon se serait déplacé selon une symétrie horizontale. Il n'aurait pas oscillé selon ce mouvement vertical. Il monte, il descend. On en déduit aussi que pour que l'onde qui est créée par l'impact du caillou dans l'eau puisse se propager, il faut précisément un liquide, à savoir l'eau, un médium qui va véhiculer cette onde. Et si le bouchon monte, c'est qu'une onde a une forme sinusoïdale. C'est un sommet, un creux, je le dessine à la main, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Alors on peut diviser l'onde en deux parties symétriques, avec une ligne horizontale qui va représenter en quelque sorte le niveau zéro. Et la distance entre cette ligne horizontale qui sépare la sinusoïde en deux parties symétriques, et le sommet, on va l'appeler amplitude. D'accord ? C'est la hauteur de la montagne. Vous voyez qu'un creux aura une amplitude inverse. Alors cette amplitude, on va l'appeler petit a. c'est la hauteur de notre sommet, et moins A, ça sera la hauteur du creux. La distance entre deux sommets successifs, ça va s'appeler une longueur d'onde, d'accord ? Et vous pouvez imaginer qu'il existe, par unité de temps, un nombre plus ou moins grand de sommets de creux. L'unité de temps va être la seconde. Donc, le bouchon va monter un certain nombre de fois et descendre un certain nombre de fois en fonction du nombre de creux et de sommets. D'accord ? Et donc, le temps qui va s'écouler entre deux positions identiques occupées par le bouchon, ça va s'appeler période, et la fréquence de montée et de descente, ça va s'appeler précisément la fréquence. Le nombre de fois où le bouchon va monter et descendre. Avec ces paramètres simples, on va pouvoir se débrouiller et faire une physique avec les mains, basée sur la logique et le bon sens. Alors, vous imaginez que les rayons lumineux vont passer par les deux fentes, puisque c'est les seuls endroits libres où la lumière peut passer, et ils vont se projeter sur un point de l'écran, avec deux chemins qu'on appelle des chemins optiques. Alors, là où il y a de la lumière, eh bien, on a deux ondes, vous les mettez l'une au-dessus de l'autre, et vous pouvez imaginer que si les ondes sont synchronisées dans l'espace et dans le temps, à chaque sommet correspondra toujours un sommet, à chaque creux correspondra toujours un creux. Ce qui fait qu'on aura une onde résultante d'amplitude double. Et la hauteur de cette onde résultante sera 2A. Par contre, si un sommet correspond à un creux, et ceci constamment dans l'espace et dans le temps, bah, les ondes vont s'annuler. Un sommet correspondra toujours à un creux, 1 moins A égale 0. Ça expliquait pourquoi sur un point de l'écran, il y avait ou de la super-lumière ou de l'obscurité. Alors, lorsqu'il a fait cette expérience, Thomas Young a écrit un article, et un physicien qu'on a bien oublié maintenant, célèbre en son temps, a dit « Comment osez-vous, jeune homme, contredire le travail du grand Newton ?» C'était la réponse de l'époque. Alors maintenant, on va reprendre cette expérience un petit peu différemment. Ce qu'on constate, c'est que la frontière entre la matière et la lumière, en physique, devient très ténue. Ça a été la grande surprise des physiciens au début du siècle, lorsqu'ils se sont rendus compte que dans le domaine de l'infiniment petit, chaque particule avait une double existence. La particule existait dans sa dimension corpusculaire, mais la particule existait simultanément dans sa dimension ondulatoire. On appelle ça en physique la dualité onde-corpuscule, qui n'est pas une dualité. La lumière se montre tour à tour, elle, soit sous ses habits corpusculaires, soit sous ses habits ondulatoires. Contrairement à la matière qui existe simultanément dans cette double dimension corpusculaire et ondulatoire. Alors, la lumière a des comportements pour nous étranges. Alors, au début, je vais vous donner l'impression de faire une sorte d'anthropocentrisme, mais assez vite, vous allez voir qu'on va arriver à des conclusions qui nous amènent à envisager une information consciente de la lumière. Alors, imaginez cette lumière envoyer à travers ce dispositif dit de Young une source lumineuse, un écran avec deux fentes et derrière un écran. Si on bouche une des fentes, la lumière se présente sous son aspect corpusculaire. Il n'y a pas d'interférence. Il y a une seule voie possible, la fente libre. Maintenant, imaginons qu'on mette un détecteur juste devant l'écran. D'accord ? La lumière ayant les deux fentes libres passe, j'allais dire, librement. Et le détecteur, on va l'allumer un milliardième de seconde avant que la lumière n'arrive sur l'écran. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que si le détecteur n'est pas allumé, la lumière pouvant passer par les deux fentes va se projeter sur l'écran dans sa dimension ondulatoire. Et l'écran va exprimer les interférences avec, sur une ligne verticale, de la lumière, de l'obscurité, de la lumière, de l'obscurité. si on allume le détecteur après que la lumière soit passée par les deux fentes, tout est déjà joué. Vous êtes bien d'accord? La lumière est passée par les deux fentes. Donc, elle ne peut, selon notre regard, on va dire, profane, que s'exprimer dans sa dimension ondulatoire avec, sur l'écran, les signes de l'interférence. Or, elle ne le fait pas, bien qu'elle soit déjà passée par les deux fentes. On en déduit donc qu'il y a une possibilité de rétroaction. C'est-à-dire que quand la lumière se sent espionnée, elle va se montrer sous des habits corpusculaires. C'est bien clair pour tout le monde, la lumière passe par les deux fentes, ça y est, c'est déjà joué, comme moi je passe par cette porte, d'accord? La porte est ouverte, je passe, et je ne peux rentrer dans la pièce que dans ma dimension que j'avais au moment où j'ai passé la porte. Or, là, ce qu'on constate, c'est que bien que la lumière ait passé les deux fentes, dès qu'on allume le détecteur, la lumière ne se présente pas dans sa dimension ondulatoire, mais dans sa dimension corpusculaire. Par contre, quand on arrête le détecteur, la lumière se présente dans son aspect ondulatoire. Premier lien entre la lumière et le temps. Maintenant, les physiciens se sont dit, quand on envoie, comme on le faisait à l'époque de Hume, des flux de particules lumineuses, certes, on a cette lumière qui se présente tour à tour dans ses dimensions ondulatoires ou corpusculaires, suivant que les deux fentes sont libres, ou au contraire, une seule est accessible. Maintenant, on peut envoyer la lumière, particule lumineuse après particule lumineuse. On a des moyens, des lasers, qui permettent d'envoyer les particules les unes après les autres, une par une. Alors imaginons la même expérience, on a un écran, un obstacle entre l'écran et la source, avec deux fentes, et les particules sont envoyées les unes après les autres. On va simplifier l'expérience d'un japonais, Tono Nomura. On va envoyer une particule par seconde. Donc une seconde, une particule, 10 secondes, 10 particules. Les particules étant projetées sur l'écran, elles se montrent dans leur aspect corpusculaire. On se dit, ça y est, c'est gagné. La nature intime de la particule lumineuse, qu'on appelle photon, elle est de nature corpusculaire. Quand on les envoie en flux, elles adaptent une dimension ondulatoire. Mais quand on laisse le temps agir, 100 secondes, on a des impacts sur l'écran qui semblent aléatoires, comme un tennisman qui va faire un service, la balle va se projeter sur un mur, il va viser plus ou moins exactement, et on va avoir une sorte de distribution des particules sur l'écran qui semble aléatoire. D'accord? Mais si on laisse le temps agir, au bout de 2000 secondes, 2000 particules envoyées, on commence à voir émerger les figures d'interférence. Donc, la lumière se présente dans sa dimension ondulatoire. Mais il y a problème, puisque les particules lumineuses, une à une, ont une dimension corpusculaire. Elles doivent donc choisir la forme du haut ou la forme du bas. Elles ne peuvent pas passer simultanément, pense-t-on, par les deux trous. Alors, un des maîtres fondateurs de la mécanique quantique, Dirac, a dit « On est bien obligé d'en déduire que la particule s'est dédoublée et qu'elle a interféré avec elle-même. » Et quand on laisse le temps agir encore plus longtemps, par exemple 70 000 secondes, eh bien on s'aperçoit que les figures d'interférence se positionnent sur les premiers impacts, comme si la lumière avait anticipé les figures d'interférence à venir. Alors là, la lumière est capable d'anticipation. Alors, curieuse lumière, que cette lumière est capable de rétroaction et d'anticipation. C'est donc une lumière porteuse d'informations, où la lumière n'est qu'un vecteur pour véhiculer une information. Alors, déjà, on pose le problème de la nature, intime de cette lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qui semble être limité, on commence à aller au-delà de sa limite qu'avait posée Einstein, 300 000 km à la seconde, et on commence à se rendre compte que cette lumière peut avoir des comportements étranges qui nous ramènent à Platon. Vous savez que Platon avait classé les cinq éléments avec des figures géométriques qu'on appelle les polyèdres platoniciens. La terre, c'est un cube. Le feu, c'est un tétraèdre. L'eau, c'est un icosaèdre. L'air, un octaèdre. Et l'éther, c'était un dodécaèdre. Voilà. Or, pour Aristote, le cinquième élément, c'était la nature du vide. On reviendra sur ce vide. Un vide qui semble, pour nous, dans un regard non physicien, le vide, c'est le rien. Mais pour un physicien quantique, le vide, c'est plein d'énergie. C'est un vide plein, c'est donc pas un vide. Donc le vide, c'est un concept, j'allais dire, vide de sens, quand on met ses lunettes de physicien. Alors pendant de nombreuses années, on a accusé Platon d'être un philosophe idéaliste. On appelle d'ailleurs sa philosophie une philosophie idéaliste. Pour Platon, il y avait le monde des idées, qui était un monde pur, un monde archétypal, et il y avait le monde du sensible, le monde dans lequel nous vivons. Et il considérait que l'idée pure, lorsqu'elle quittait le monde archétypal pour rentrer dans le monde de l'incarnation, eh bien, c'était une pâle copie du monde archétypal. Et ça m'amène à une réflexion, puisque finalement, le but de l'artiste, c'est une antenne. Un musicien, Claude Debussy, nous dit « Le musicien a le privilège de capter toute la poésie du jour et de la nuit, de la terre et du ciel, d'en saisir l'atmosphère et d'en rythmer l'immense palpitation. » On ne peut pas me dire. C'est-à-dire que pour Claude Debussy, qui a été à l'origine de l'impressionnisme musical, l'artiste est une antenne. Il va capter des informations de la lumière informée. Et donc, dans notre société, l'artiste, lui, il essaye de recueillir le monde archétypal, l'archétype, l'idée pure, dans ce qu'on pourrait appeler le prototype. Mais c'est déjà une déformation, une pâle copie de l'archétype. L'artisan, lui, qui a une dimension artistique, il va être non pas dans l'objet unique, il va essayer d'avoir plusieurs copies d'objets, même s'il donne sa touche et son individualité, mais c'est déjà le type. Et le monde industriel, c'est le stéréotype. Et au bout de la chaîne, il y a le pauvre type qui achète le stéréotype, pensant qu'il a acheté un prototype, alors que c'est un pâle reflet de l'archétype. Alors, le dodécaèdre, on a reproché à Platon d'avoir développé une sorte de projection mathématique de l'univers. Il avait enfermé l'univers dans des formes géométriques qui n'avaient pas vraiment de réalité. Le dodécaèdre est fait de pentagone. Or, un astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Lumineux a étudié le rayonnement fossile qui serait l'écho du Big Bang, l'écho lumineux, 380 000 ans. Et lorsqu'on relie les points les plus chauds avec des instruments de mesure qui permettent de capter la température, il faut des capteurs thermiques supraconducteurs. Et quand on relie les points les plus élevés avec une fluctuation thermique d'un 10 millième de degré, eh bien on s'aperçoit que les points reliés forment un dodécaèdre. C'est-à-dire que nous vivons dans une cage dodécaédrique. Il a d'ailleurs créé une nouvelle discipline de la cosmologie qui s'appelle la cristallographie cosmique, parce qu'on retrouve des formes qu'on croyait uniquement cédées à la matière. Or, les confins de l'univers, pour nous visibles, nous montrent que nous sommes, j'allais dire, dans une cage dodécaédrique. Les limites visibles de l'univers sont les limites d'une sphère dont le pavage serait dodécaédrique. Et vous voyez, actuellement, il y a une sorte de compétition entre deux archétypes. Le ballon de foot, voilà, qui ressemble au dodécaèdre sans être un dodécaèdre, hein, c'est un problème mathématique, il faut faire un pavage d'une sphère, et on doit associer des hexagones et des pentagones, avec une majorité de pentagones et une minorité d'hexagones. Et puis, il y a la cage dodécaédrique, dans laquelle nous sommes tous insérés, y compris les autres vies et les autres planètes. Et c'est comme s'il y avait deux archétypes qui s'affrontaient, l'archétype platonicien, lumineux, et l'archétype matériel, qui est une pâle copie de l'archétype pur, qui qui est cette cage dodécaédrique lumineuse. Alors, lorsqu'on rentre dans l'initiation, on s'aperçoit, et c'est souvent la réflexion qu'on me fait, oui, mais les théories passent. Ce à quoi, effectivement, le biologiste Jean Rostand disait, les biologistes passent et les grenouilles restent. Les biologistes passent et les grenouilles restent. Les grenouilles. Voilà, on travaille toujours sur les grenouilles, bien que les théories et les biologistes soient passés et très passés. Et donc, un texte initiatif, le Kybalion, essaye de donner cinq principes bases basés sur la logique. La logique, elle est intemporelle. Elle va au-delà des modes. La mode, c'est ce qui se démode. Et un des premiers principes, c'est le principe mentaliste. L'univers est mental et le tout est mental. Maintenant, on l'a un petit peu reluqué, on appelle ça la loi d'attraction ou la pensée créatrice. Mais voilà, dans ce texte destiné aux initiés égyptiens, ils avaient déjà compris que l'univers est mental. Alors évidemment, c'est toute la différence entre une science où l'observateur ne s'implique pas et les sciences où l'observateur s'implique. En mécanique quantique, dès qu'on fait une mesure, on va perturber la mesure. Donc on ne peut plus séparer l'observateur et l'objet de son observation. Et même, on peut aller plus loin, on pourrait dire, paraphrasant Montaigne, parce que c'est lui l'expérimenteur et parce que c'est elle l'expérimentation, eh bien on aura un résultat qui sera un amalgame ou un croisé ou une interaction entre l'univers de l'expérimentateur et puis, d'une certaine façon, l'esprit de l'expérimentation. Ce qui a fait dire à un autre père fondateur de la mécanique quantique, Werner Heisenberg, qu'on ne mesure pas le réel, mais l'interaction de nos instruments avec un réel qui devient, comme le dit Bernard d'Espagna, un réel voilé, qu'avaient très bien vu les impressionnistes, puisqu'ils avaient voilé le monde avec une sorte de flou, qui est le flou, d'ailleurs, la fluctuation quantique. Alors, si on prend la chimie et l'alchimie, eh bien, outre le fait qu'il y a « al » devant, qui signifie « sacré », c'est que le chimiste, lui, ne se pose pas le problème de son état intérieur, alors que l'alchimiste se le pose. Et quand on va au fond de l'alchimie, ça avait pour but de tester celui qui était en recherche de progression spirituelle. Comment savoir si on a atteint un certain état ? La matière, elle, ne trompe pas. On peut être entouré de flatteurs qui nous disent qu'on a réussi. On peut même se tromper. Le pire des mensonges, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Et une façon d'avoir une sorte d'étalon, c'était de réussir sa pierre philosophale. Si on était en mesure de le faire, c'est donc qu'on avait à ce moment-là un certain état. C'est comme le bonheur, il n'est pas pérenne. On a des percées de bonheur ou des états de bonheur. Et donc, il y a d'un côté la communauté des chimistes qui envisagent la matière sous forme de boule. Alors ça s'est un peu raffiné avec les chimistes qui sont orientés qui se sont orientés vers la mécanique quantique. Ce ne sont pas des boules dures, impénétrables, mobiles et soumises à un mouvement éternel. Ce sont des objets assez curieux qui ne sont ni des ondes, ni des corpuscules, qui sont rien de tout ça. On pourrait dire que ce sont l'égal, ces particules quantiques qu'on appelle quantons, du duc molle de l'ornithorynque. Quand vous le regardez de face, il a la tête d'un canard, et de dos, il a l'arrière-train d'une taupe. C'est la taupe canard. Alors, où est la réalité de la particule ? Est-elle dans sa dimension corpusculaire ou dans sa dimension ondulatoire ? Comme l'ornithorynque qui a finalement réuni à la fois l'aspect du canard et l'aspect de la taupe, où ces monstres mi-homme, mi-bête, dans les églises romanes, on ne sait pas s'ils relèvent du bestial ou de l'humain. Ils sont à la fois les deux. Donc, première chose, quand on fait une approche classique, on ne se pose pas le problème de sa participation. Finalement, quand on rentre dans le monde de la mécanique quantique, et d'une certaine façon de la physique moderne, on rentre dans une physique participative. C'est-à-dire que vous participez à l'expérience et vous allez obtenir une partie du réel. Parce que vous avez fait une interaction particulière. Alors, autre propriété curieuse de la mécanique quantique, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines approches, c'est ce qu'on appelle les états superposés. Si j'étais un être quantique, ben, je ne serais pas devant vous immobile. On ne pourrait pas savoir où je suis. Je serais un déplacement incessant, une fluctuation. On pourrait dire il est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais ce n'est pas où, mais c'est et. Je serais simultanément au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ces états sont dits superposés. Donc les équations qui régissent la matière au sens microphysique, sont des équations où les solutions sont superposées. C'est-à-dire qu'avant de faire l'expérience, on est dans une multiplicité d'états. Et quand l'expérience se fait, il y a un état qui sort parce qu'il y a eu une interaction d'un type donné. Donc où est le réel ? Avant la mesure ? Ou à partir de la mesure. Vous comprenez la réflexion de Werner Heisenberg qui dit finalement, on a un réel qui dépend de l'interaction qu'on a fait avec ce monde superposé. Alors, autre propriété de la mécanique quantique, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'univers élémental et le trou élémental, c'est que deux particules pointées en contact le resteront, quelle que soit la distance dans l'espace et dans le temps qui les sépare. Ça, c'est très curieux à imaginer. Et un anthropologue, Sir James Fraser, disait « Finalement, la magie, c'est maintenir un état de lien malgré la coupure. » Là, c'est exactement la définition qu'on donne à ce phénomène qu'on a appelé au départ « intrication » qui a été posé par Einstein et qu'on appelle aussi le paradoxe EPR. Einstein, Kieślowski et R. Rosen. C'est une sorte de problématiques qui avaient été posées par ces trois chasseurs. On appelle ça une expérience par la pensée. Et ils disaient, si on arrive à la conclusion que les particules sont toujours liées, ce qu'on n'arrivera jamais à démontrer, et ce que la mécanique quantique arrivait en tant que conclusion, eh bien, ça montrera que la mécanique quantique est fausse. Et lui refusait l'aspect probabiliste de la matière. Et il a cette célèbre formule, Dieu ne joue pas au dé. Et Niels Bohr, un autre père fondateur de la mécanique quantique, il lui a répondu, arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Donc, si on a en tête, même s'il va être remis en cause forcément le Big Bang, tous nos atomes, lorsque je bois l'eau dans ce verre, les molécules d'eau ont été fabriquées dans une étoile, nous sommes une poussière d'étoiles, mais toutes ces particules lumineuses ou matérielles ont été créées au moment du Big Bang. Or, il y avait un contact. Une proximité, un lien. Et ce lien est toujours maintenu, malgré la distance, dans le temps et l'espace. On est dans l'illusion d'une séparation. Alors, Emilio a parlé de chamanisme. Le chamanisme adopte tout à fait ce point de vue. C'est-à-dire que nous sommes toujours liés à l'état qui nous a donné naissance. Alors, si on croit à la vie avant la vie après la mort, ou à la vie des origines, eh bien, ce lien est toujours présent. On est dans une reliance. On est condamné au lien perpétuel. Voilà. Deux particules qui s'aimaient d'un amour tendre leur resteront liées par cet amour, quelle que soit la distance qui les sépare, dans le temps et dans l'espace. Alors, je reviens aux lois, aux principes du Kybalion. Donc, c'est des principes, ça ne se démontre pas. Bien que certains principes ont été démontrés, c'est ce qu'on appelle le tout vibratoire. Tout est vibration. Eh bien, je l'ai évoqué, le tout vibration, on le retrouve dans la mécanique quantique. C'est un Français, le prince Louis de Broglie, qui a établi une relation qui lie la matière à la vibration. Il appelle ça des ondes de matière. Ce monsieur qui est décédé en 87, je l'avais rencontré quelques années avant sa mort, il m'avait dit « j'ai eu cette idée ». Parce que j'ai vu mon lacet se défaire lors d'un concert, et au bout d'un lacet, il y a un petit bout de cuir, et le lacet a flotté. Et comme il avait une âme de poète, il s'est dit, peut-être que si la lumière a une dimension corpusculaire, l'inverse est vrai. Voilà. Et comme il était un excellent physicien, il a transformé son idée, qui pourrait être qualifiée de poétique, en idée scientifique, parce qu'il a mis, comme dit Einstein, son ami d'ouvrier, c'est-à-dire il a résolu les équations. Donc rien à dire, vous voyez, les deux principes, on les redécouvre. Après, tout est rythme. Mais tout est rythme parce que tout est temps. Et si tout est rythme, tout est cycle. Donc on comprend qu'on soit soumis à des cycles, à des rythmes, et que le temps soit ce paramètre aussi difficile à modifier. Je reviendrai, puisque c'est l'essentiel pour moi, dans une voie initiatique, c'est remettre en cause la nature du temps qui nous a été enseignée comme étant fait d'un flux régulier qui s'écoule à une vitesse, on va dire, constante. Voilà. Et ça, la physique est en train de le remettre en cause. Autre principe du Kybalion, c'est le principe du genre. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait une polarité, il faut donc un masculin et un féminin. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le principe masculin-féminin, qui n'est pas la même chose. D'accord ? Alors ce principe masculin-féminin, on peut le définir de la façon suivante. Un principe masculin, il est potentiel et émissif. Le principe féminin, il est réceptif et actualisant. On prend le soleil émet de la lumière. C'est donc une émission, et cette lumière est une information. Mais pour que la lumière puisse délivrer son information et qu'elle se transforme en matière, il faut qu'il y ait une plante avec ses feuilles, sa chlorophylle, qui puisse recevoir cette lumière. Et la plante est un micro-réacteur qui transmute la lumière en matière. Donc le principe féminin est un principe réceptif et actualisant, c'est-à-dire que l'information potentielle ou qui était dans un état superposé, elle a été ramenée à la matière. D'ailleurs, la femme met la matière en ordre après la rencontre avec le spermatozoïde. L'ovule, c'est un principe réceptif et actualisant, et le spermatozoïde, c'est un principe émissif et potentiel. Et c'est la rencontre de ces deux principes, réceptif et émissif, actualisant et potentialisant, qui fait que la vie est possible. Autre principe du Kybalion. Alors rien à dire, vous voyez, jusqu'à présent, on a simplement utilisé l'observation, le sens de l'observation et la logique. Et ça, c'est vrai, quels que soient les modèles qui se sont succédés, quels que soient les grenouilles sacrifiées et les biologistes qui se soient enchaînés. Alors, autre principe, c'est le principe de cause à effet. On envisage, et c'est d'ailleurs à la base de la méthodologie scientifique, parce que la lumière est la plus grande vitesse qu'on puisse imaginer, 300 000 km à la seconde, qu'à tout effet correspond une cause qui l'a précédée. Maintenant, imaginons qu'entre la cause et l'effet, le temps puisse s'accélérer. Eh bien, on pourrait avoir l'effet avant la cause. Et oui, on oublie qu'il y a une hypothèse cachée. L'hypothèse cachée, c'est que le temps s'écoule régulièrement, sans accélération, sans décélération, à une vitesse uniforme. Et donc, dans le Kybalion, il est bien précisé qu'on peut avoir l'effet avant la cause et la cause avant l'effet, et que c'est deux aspects du temps complémentaires. Autre philosophie de la mécanique quantique, deux aspects qui paraissent opposés, ne sont pas opposés, mais complémentaires. On retrouve une très belle pensée de Pascal qui nous dit « Le contraire de la vérité n'est pas l'erreur, mais l'oubli de la vérité contraire. » Oui. Souvent, c'est l'oubli de la vérité contraire qui nous fait penser que l'autre est dans l'erreur, en fin de compte. Voilà. Et c'est exactement ce qu'a dit Niels Bohr, très troublé devant cette lumière qui se montrait tour à tour dans ses habits corpusculaires et dans ses habits ondulatoires. Il a dit les deux aspects sont complémentaires. La lumière, elle est onde ou corpuscule. Voilà. Et la matière est onde et corpuscule. Et ces deux aspects qui semblent complètement opposés, vous imaginez, d'un point de vue, si on revient à la lumière, c'est immatériel, d'accord ? Même si ça relève d'une physique qui essaye de comprendre la matière, mais c'est immatériel. C'est la lumière, on commence à pouvoir la ralentir, mais on ne peut pas l'imaginer en repos, d'accord ? Et surtout, elle a une vitesse fulgurante. Face à ça, on a une matière qui, elle, est substantielle, donc limitée, alors que la lumière est infinie, d'accord ? Et elle ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Quoi de plus opposé que la lumière et la matière, l'immatériel et le matériel ? Eh bien, ces deux aspects sont complémentaires, et cette lumière, vous imaginez, elle peut se montrer tour à tour dans son aspect matériel, avec des vitesses de 300 000 km à la seconde, d'accord ? infini, immatériel, ou au contraire fini, immatériel. Curieux. Curieux et troublant. Alors, si on revient au temps, on va essayer d'un petit peu de redéfinir le temps. La physique moderne est en train de s'attaquer à cet édifice qui s'appelle le temps. Et Platon va nous faire comprendre quelque chose, puisque le Timée de Platon est un texte codé. Platon est resté 11 ans en Égypte, il a été initié à Héliopolis par des prêtres égyptiens. Il a cette définition que seuls les agrégés de philosophie essayent de comprendre. Le temps, cette image mobile de l'immobile éternité. On se dit, finalement, il y a le monde des idées, le monde archétypal qui est immobile, et puis nous vivons dans un monde où il y a le mouvement, et le passage de l'immobilité à la mobilité entraîne une déformation. C'est pour ça que Platon exprime cette nostalgie vis-à-vis de cette idée pure qui est forcément immobile, car non changeante. Or, si on essaye de projeter, et il y a des physiciens théoriciens, je ne suis pas le seul à travailler sur la remise en cause du temps, et bien on s'aperçoit que des temps qui peuvent avoir des vitesses accélérées, c'est tout à fait possible. Et à partir du moment où vous, très simplement, vous remettez en cause l'écoulement du temps, eh bien, reprenons l'expérience avec la lumière. Cette lumière qui peut être capable d'anticipation ou de rétroaction, c'est comme si on avait mis l'effet avant la cause. Alors, on retrouve ça dans toutes les civilisations premières. Sur une tablette sumérienne, il est écrit « Ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc deux nuages se rencontrent. » Ce n'est pas la même chose. On crée d'abord la fonction de pluie, et ensuite, on actualise la fonction pluie. Donc, on a inversé la cause et l'effet. Ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir. Ça, c'est la vision des météorologistes. Les nuages se rencontrent, les masses atmosphériques, la mécanique des fluides, on fait des calculs. Et à ce moment-là, la pluie arrive. Mais plutôt, il va pleuvoir. Donc, il y avait une potentialité de pluie. Et les nuages, devant cette potentialité, vont l'actualiser et se rapprocher et donner la pluie. Vous voyez, c'est assez profond et c'est plus que poétique. Alors effectivement, dans les principes du Kybalion, il y a cet aspect. D'accord ? Et puis il y a le fameux principe que tout le monde connaît, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais j'ajouterais, attention, la logique du haut n'est pas la logique du bas. On l'oublie souvent. C'est des analogies de forme, mais pas des analogies de logique. Par exemple, si on prend le monde macroscopique, les planètes, ils obéissent à une mécanique qu'on appelle la mécanique céleste. C'est une mécanique classique. Et nos atomes obéissent à la mécanique quantique. Alors, cette mécanique quantique, elle est troublante parce que, tout simplement, l'objet n'étant pas purement matériel, il est à la fois ondulatoire. Vous voyez bien que si votre voiture avait une dimension ondulatoire, elle ne se propulserait pas de la même façon. Parce qu'elle allierait deux qualités opposées. Et c'est ça qui a troublé les physiciens au départ classiques. Ils avaient l'impression qu'il y avait deux mondes incompatibles, le monde de la matière et le monde de la lumière. Et on considérait qu'il y avait deux édifices dans la physique, le monde de la mécanique sous toutes ses formes, mécanique rationnelle, céleste, et puis il y avait le monde de l'électromagnétisme, le monde de l'optique. Or, un chimiste, Lord Kelvin, a eu cette malheureuse phrase, il a regretté par la suite, il dit « À part un ou deux petits nuages qui semblent obscurcir notre horizon scientifique, nous avons à peu près tout connu, tout compris des phénomènes thermodynamiques et lumineux. » Pas de peau pour lui. Quelques années plus tard, Einstein déterre la relativité restreinte et remet en cause les voiles de l'électromagnétisme pour les grandes vitesses. Et puis au niveau de la thermodynamique, Max Planck a touché de la mécanique quantique. Alors ce que je voudrais vous faire sentir, j'allais dire par le cœur, c'est que nous sommes arrivés à un point où science et spiritualité peuvent converger. Et qu'il n'y a plus cette opposition, cette guerre de tranchées comme il y avait. Et pour les mettre en résonance ou en convergence, eh bien, il faut oser violenter le temps. Alors ce temps, on a des tas de preuves qui nous amènent à considérer qu'il peut y avoir un temps accéléré et décéléré. On va simplement faire un petit raisonnement comme une fusée à trois étages. imaginez le premier étage. Le premier étage, c'est l'étage matériel. Avec Albert Einstein, en 1905, le premier petit nuage qui a obscurci notre horizon scientifique, c'est la fameuse équation E égale mc carré. La matière, c'est de l'énergie concentrée. Alors la grande surprise des physiciens, l'atome que les Grecs avaient intuité, vous voyez comme quoi l'intuition a une fulgurance, et le prix Nobel de littérature, Maurice Maeterlinck, disait « Si on avait suivi l'intuition plutôt que l'intelligence, on aurait été beaucoup plus loin et de plus loin. » Et il ajoutait « L'intelligence est la léthargie de l'esprit humain. » C'est-à-dire qu'il y a 25 siècles, Démocrite avait compris qu'il existait un grain matériel qu'ils ont appelé « atome ». Étymologique, atomo, ça veut dire non sécable. Sur ça, ils se sont trompés, il y a quelque chose à l'intérieur, mais les quelque chose à l'intérieur comportent encore quelque chose à l'intérieur. D'ailleurs, ceux qui ont fait un petit peu de géométrie, vous savez qu'une droite est faite d'une infinité de points, or un point, on peut toujours le diviser en deux. Et les deux parties, vous pouvez les diviser en deux, et ceci à l'infini. Donc tout segment fini, si vous le divisez, vous arrivez à la conclusion que l'infini peut donner l'infini. Qui est quand même très troublant. Parce que vous avez un secteur de longueur finie, par exemple un mètre, et vous pouvez avoir deux morceaux d'un demi-mètre, et ces morceaux d'un quart de mètre, et un huitième de mètre, et un seizième de mètre, et vous pouvez faire ça à l'infini. Or, pourtant, au départ, vous avez un segment fini. Donc, si une droite est faite d'une infinité de points, chaque point, par le même raisonnement, peut être défini à l'infini, donc une droite ne devrait pas exister. D'accord ? Un plan est fait d'une succession de droites et un volume, il est fait de plans. Plan, volume et droite ne devraient pas exister. Alors, ça on le comprend assez facilement, je dirais, le message est passé, mais vous voyez, 1905, il a fallu 105 ans pour que ça passe. Mais regardez un petit peu les chiffres, ils sont assez étonnants. Un atome s'est fait à 99,99% de vide. Vous êtes assis sur 99,99% de vide. Et le 0,01%, il est plein, il est encore fait de vide ce plein. Voilà. Pour l'instant, la seule particule insécable, c'est l'électron. Le proton, on sait qu'il est fait de quoi. Le neutron est fait de quoi. Il est probable qu'à l'intérieur des trois, il y aura autre chose. Lucrèce, un Romain, disait, si on admet ce principe qui permet de décomposer à l'infini, on ne pourrait pas faire la différence entre l'infiniment grand, le monde macroscopique, le monde cosmologique, et l'infiniment petit. Et pour lui, ça le gênait. C'est pour ça qu'il avait introduit ce qu'il appelait un terme de petitesse, qui était l'atome, qui serait la limite ultime qui empêcherait la division et cette sorte d'enfer à l'infini. Alors, l'atome, il est fait à 99,99% de vide. Notre cerveau est fait à 99,99% de vide. Et ce vide, c'est un vide plein. Il est fait de particules et d'antiparticules. Alors, un atome, grossièrement, hein, c'est un petit peu la vision qu'on avait en 1913, c'est un petit système solaire. Au cœur de l'atome, on a l'équivalent du Soleil, qu'on appelle le noyau nucléaire, et autour de ce noyau gravitent des planètes qu'on appelle les électrons, comme des abeilles qui graviteraient autour d'une ruche centrale. Et ces électrons sont porteurs d'une charge négative. Alors que le noyau, lui, est porteur d'une charge globalement positive. Il est fait de deux particules, un proton, chargé positivement, et un neutron, qui, comme son nom l'indique, ne présente pas de charge, il est neutre. Et donc, l'atome, il est sans charge, à l'état naturel, il y a autant de protons que d'électrons. S'il manque un électron, ou si on ajoute un électron, on a des ions qui peuvent donner à l'atome soit une charge positive, soit une charge négative. Maintenant, ces particules dans le vide sont toujours associées à des antiparticules, comme si il y avait un partenariat dans le vide. Donc à l'électron correspond son antiparticule, c'est comme un mariage alchimique, et cette antiparticule, on l'appelle le positron. L'électron, lui, porte une charge négative, il a une masse, et le positron aura la même masse, mais portera une charge positive. Et si l'électron tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le positron tournera en sens inverse des aiguilles. D'accord ? Et donc en permanence, ces particules et ces antiparticules, il y en a une centaine, émergent spontanément du vide, dédoublée et fusionne pour redonner de la lumière, et cette lumière redonne les particules dédoublées. Au cœur de l'atome pulse cette transmutation matière dédoublée lumière, lumière matière dédoublée, et ceci depuis le premier battement cosmologique qu'on appelle le Big Bang. Ça pulse. Maintenant, allons un peu plus loin. Vous voyez bien qu'au cœur de l'atome, tout est dédoublé. À chaque particule correspond une antiparticule. Eh bien, d'une certaine façon, on retrouve ça dans toutes les traditions initiatiques. On retrouve ça également dans toutes les cultures premières et peuples premiers. C'est qu'on est dédoublé. Et donc, faisons un raisonnement tout simple, sans équation, avec les mains. Si chacun de nos atomes comporte en son sein, majoritairement, vous en conviendrez, 99,99% vide, eh bien, ces 99,80% de vide sont dédoublés, et donc chacun de nos atomes est dédoublé. Ça veut dire que nous existons simultanément dans un état et dans un autre. Alors, si le premier étage de ma fusée, vous voyez, il est de vous dire que la matière, c'est l'énergie concentrée, un petit peu comme ce verre, vous avez le contenant et le contenu c'est l'eau et le contenant c'est le verre, je brise le verre, je répands l'eau, la fission nucléaire, c'est exactement ça, on brise là où l'énergie est condensée au maximum, c'est le noyau, ça représente à peu près 1/100 000ème de la taille de l'atome, et à ce moment-là, on libère une énergie considérable. D'ailleurs, vous voyez que la lumière est présente. Ça veut dire que non seulement la matière, c'est de l'énergie concentrée, mais c'est aussi de la lumière concentrée. Et si cette lumière est capable de nous amener à reconsidérer le lien avec le cosmos, puisqu'elle est capable d'anticipation, de rétroaction, et cette lumière est toujours en contact avec les confins de l'univers. Ça veut dire qu'on peut totalement changer notre regard. Et vous voyez qu'à ce moment-là, partant d'une équation célèbre, on l'amène au-delà de ses limites équationnelles pour la faire rentrer dans le monde de la métaphysique, et on va extraire de la physique ce qu'elle ne peut pas dire. Un petit peu comme Yves Bonnefoy qui nous dit que les mots comportent un petit point où ce petit point est en contact avec ce que ce mot lui-même ne peut pas dire. Que la poésie, c'est ne pas oublier que la parole est faite de mots qui sont toujours en contact avec ce que le mot ne peut pas dire. Et le philosophe Martin Heidegger disait que le poète est le berger des mots. Jolie expression. Donc, déjà, on est en train de reconsidérer l'espace atomique et le temps. Mais on va aller plus loin. Maintenant, toujours Albert Einstein, d'ailleurs c'est amusant de voir le scientifique peut-être le plus célèbre au monde, qui a parlé très, très tardivement, parce qu'il a commencé à vraiment pouvoir dire des mots compréhensibles à l'âge de 6 ans. Ses parents pensaient avoir donné naissance à un débile. Et finalement, c'est quelqu'un qui était une sorte d'autiste, mais qui abordait l'heure avec une maturité que, non pas, que nous n'avons pas tous, en disant, bah, finalement, une heure, c'est une heure. Lui, pour lui, ce n'était pas évident, parce qu'il abordait ces concepts très tôt, mais sans pouvoir les verbaliser avec les adultes. Donc, il n'a pas été pollué par la conception des adultes. Et quand il est sorti de son autisme transitoire, eh bien, il a commencé à réfléchir sur le temps et il s'est dit c'est pas évident qu'il existe un temps absolu comme le pensait Newton. Et donc, on